Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Sans doute a-t-on en tête, peut-être connaît-on surtout, l'homme de marbre et sa suite, l'homme de fer. Peut-être encore Danton. Mais aussi, œuvre plus ancienne, Cendre et diamant, Le bois de bouleau, Tout est à vendre, La terre de la grande promesse. Le 3 juin 1998, le réalisateur, scénariste et metteur en scène de théâtre Andrzej Wajda était l'invité des Mardis du cinéma.
Vous êtes prêts? Alors, commencez.
Proszę bardzo, możemy jechać.
Cineclub de Andrzej Wajda.
Powitanie dnia!
Dominik Prusak, Marie-Christine Kloze.
Genialny pomysł! Panie i panowie, prowadzimy poloneza. Voilà!
Traduction Michel Lisowski.
Le salon rose de l'ambassade de Pologne à Paris. C'est dans ce décor 18e que Andrzej Wajda est venu à notre rencontre. L'homme est simple et convivial, content également de revoir quelques extraits de ses films sur un petit écran dans cette ambassade. Le cinéaste polonais vient de recevoir l'épée d'académicien. Il occupera désormais le fauteuil dans lequel Federico Fellini s'asseyait à l'Académie des Beaux-Arts. La peinture et le dessin, Andrzej Wajda les a rencontrés pour la première fois à 20 ans. C'était juste après la guerre à la faculté des Beaux-Arts de Cracovie. Il sortait alors de la résistance, un engagement naturel pour ce fils d'officier de carrière et d'institutrice. Diplômé de l'école de cinéma de Łódź et adaptateur hors pair, Andrzej Wajda totalise à ce jour plus d'une trentaine de films, dont Canal, prix spécial du jury à Cannes en 1957, et L'Homme de Fer, palme d'or de ce même festival en 1981. Son œuvre se conjugue d'une façon organique avec l'histoire et la littérature de son pays, et cela aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Réalisateur militant, il participe au mouvement Solidarność qui provoque en 1989 la chute du communisme. Cet été, il tournera Messire Thaddée. En attendant, il commande quelques séquences de ses films et nous livre la 25e image qui se cache derrière les 24 autres.
Hanka Lewicka w swoim repertuarze.
Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szturm. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z gór.
1957, Cendre et diamant. Le grand hôtel d'une ville de province. En ce mois de mai 45, la Pologne fête sa libération. Au bar de l'hôtel, Maciek retrouve Andrzej. Tous deux appartiennent à l'armée secrète qui a combattu les Allemands. Maintenant, l'ennemi, ce sont les communistes. Les yeux dans le vague, Andrzej pense aux compagnons perdus. Maciek l'écoute et rassemble quelques verres de vodka sur le comptoir. Il gratte une allumette. Dans les verres, la vodka s'enflamme.
Nie wykupię się.
Nie! Nie pamiętam. Nie!
Haneczka. Bilga. Kosobucki. Rudy.
Pomysł.
My żyjemy.
Sama idea była prosta, żeby zrobić.
L'idée elle-même, voyez-vous, elle était simple.
Oczywiście można było zrobić scenę na cmentarzu.
Bien sûr, j'aurais pu tourner cette scène au cimetière, où ils se rendent sur les tombes de leurs amis.
To w tym filmie było niemożliwe, bo...
D'abord, dans ce film, ce n'était pas possible.
Ils sont dans un obcym mieście.
Parce qu'ils ne sont pas dans leur ville.
Po drugie, ich przyjaciele, ci, którzy poginęli, nie wiadomo, gdzie są pochowani.
Leurs amis tombés au combat, on ne sait pas trop où ils sont enterrés. Il a fallu donc trouver une scène...
Jakby ten obyczaj, że się palą światła w
qui
dzień
montre l'habitude qu'on a, toujours très vivace, très respectée en Pologne, d'allumer des cierges sur les tombes des morts.
Je dois
vous dire que tous ceux qui viennent pour le 1er novembre, le jour des morts en Pologne, sont surpris de voir ces cimetières remplis de flammes. C'est peut-être encore une coutume païenne.
Donc,
trouver cette idée qu'on avait besoin du feu, c'était assez facile.
Drugie, że wódka się zapala, jeżeli jest dostatecznie wysokoprocentowa.
On sait que la vodka, si elle est suffisamment forte, s'enflamme.
Wiemy.
Ça, nous le savons.
A potem był tylko problem, jak to zrobić, jak
et
to
ensuite, il y avait seulement le problème pratique, comment faire, comment mettre en scène
ten długi
cela.
Wzięty, oczywiście, z amerykańskich filmów.
On a le long comptoir, le long bar qui vient directement du cinéma américain.
W ogóle, styl tego filmu jest,
mais tout le style de ce film, l'image et la manière de réaliser est proche de films américains de la série noire des années 50, comme Scarface, Le Faucon
Maltais.
La jungle d'asphalte, c'est un film qui m'a fait une impression fantastique à l'époque.
Et
je continue à penser que c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu.
Podobnym jakby kierunku jest realizowany Popiu.
Donc je dirais que Sandra Diamant va au point de vue technique, narration très claire.
No i teraz
bien dans ce sens.
Ta rozmowa zbudowana wokół tej piosenki.
Nous avons donc cette discussion entre eux construite autour d'une chanson qui est aussi une apparence, un ersatz de liberté. C'est une chanson qu'on ne pouvait pas interdire, une chanson où il n'y a rien d'extraordinaire. Les Polonais se sont battus au Mont Cassin, où il y avait des Allemands.
Piosenka opowiada o tym, że do dzisiaj tam
et la chanson nous dit simplement qu'il y a toujours maki, des coquelicots au Mont Cassin, qu'ils sont rouges. Et ils sont d'autant plus rouges parce qu'ils ont poussé sur le sang de ceux qui sont morts en conquérant le Mont Cassin. Une chanson terriblement sentimentale, vraiment... En en faisant un résumé, ça nous paraît complètement stupide. Mais cette chanson avait joué un rôle important, car c'était une victoire à l'Ouest, pas vraiment reconnue et acceptée par les autorités. Et les Polonais adorent surtout ceux que l'on rejette, ceux à qui on fait du mal. C'est un joli trait de notre nation, trait de caractère de notre nation.
Panie majorze?
Tak?
Telefon.
Halo? Halo? Mówi Andrzej. Andrzej? Chciałem pana zawiadomić, że sprawa jest załatwiona. Wszystko w porządku. Tak. Tak. Żadnych komplikacji. Tak. Tak.
Dzień dobry.
Macie pokój dla towarzysza sztuki?
C'est une des plus grandes scènes du cinéma mondial pour moi.
Oczywiście.
C'est la mort qui décide de la vie, du sens de la vie.
Michel Masłowski, historien du romantisme.
Si on meurt lâchement, notre vie n'aura pas eu de sens. Même si on aura vécu, je sais pas, combien d'années, 100 ans, 120 ans. Et on peut mourir jeune, mais si notre mort a donné le sens à notre vie, cette vie n'aura pas été vécue pour rien. Et c'est ça les paroles, et c'est très romantique. C'est très romantique parce que tous ces jeunes gens qui s'engageaient dans les insurrections, ils allaient à la mort très souvent. mais ils étaient convaincus que c'était une mort qui aura un sens, qui sera reconnue par la communauté culturelle, et qui sera portée dans la mémoire collective et qui, quelque part, va contribuer à changer le monde. La chanson « Cervone macchina Monte Cassino » fait allusion à un combat extrêmement meurtrier où l'armée polonaise a pris part aux batailles de Monte Cassino pendant la dernière guerre où il y a énormément de Polonais qui sont morts. Le Monte Cassino a été pris. Ça a marqué la présence de l'armée polonaise dans la Seconde Guerre mondiale malgré l'occupation allemande. Mais les prix étaient très très chers. Et voilà, il n'y a pas de réponse, j'ai pas de réponse. Ils sont morts, donc il faut respecter leur choix quelque part, n'est-ce pas? Mais je peux pas dire que je suis pour ou contre. Mais évidemment, ça c'est un de ces débats très douloureux pour les Polonais.
Et il y a encore une chose importante.
Zbyszek opowiada to wszystko jakby ironicznie, że to
Zbyszek
tak
jest, raconte tout cela avec un peu d'ironie. Comme si nous avions été obligés, étant jeunes, de le faire. Nous étions jeunes, nous étions obligés de consacrer nos vies, de donner nos vies. Il y a quelque chose de superbe là-dedans. Et je dirais que ça suffit. Maintenant, s'ils avaient porté un jugement sur leurs dirigeants, officiers, des hommes politiques, on aurait perdu du tragique. Le tragique vient du fait qu'ils considèrent en fait tous les deux cela comme naturel. Tu es né dans ce pays, tel est ton sort.
D'abord, Wajda est un artiste national, il a pris cette voie assez délibérément en reprenant les grands mythes polonais. Le mythe des insurrections, par exemple. Et la plupart de ses films, surtout de la première période, depuis le canal Ils aimaient la vie, de Cendre et Diamant, L'Aile, n'est-ce pas? Et tous ces films reprennent différentes insurrections polonaises, y compris d'ailleurs insurrections historiques, comme dans Les Cendres, où une sorte de tiraillement, de tension entre la volonté de la vie individuelle et une sorte de responsabilité pour le destin collectif. La responsabilité, je vous rappellerai la phrase de Lévinas contemporaine, que la responsabilité pour l'autre, c'est la transcendance. Donc quelque part, ça redéfinit aussi les religieux, parce que ça veut dire la responsabilité pour son peuple, c'est la vraie religion. Ce n'est pas seulement aller à l'église, n'est-ce pas? La foi polonaise, du coup, s'est formée comme la responsabilité pour le destin collectif. Ensuite, il a repris directement les mythes romantiques dans la noce, où il revient comme les rêves, de nouveau en tension, en contradiction tragique avec la réalité, avec le jour. Tout se passe la nuit, une immense solographie, où tout le monde d'un coup revit les grands mythes des insurrections, de la grandeur, des valeurs polonaises. Et puis, au petit matin, rien ne bouge, parce que ça ne peut pas bouger, c'est l'Autriche, et le romantisme polonais, c'est quelque part la primauté du rêve nocturne sur la réalité diurne, du rêve sur la réalité, mais du rêve qui exprime, et non pas les pulsions libidinales, mais les aspirations collectives à un monde meilleur, je dirais comme ça, assez banalement. Parce que c'est vrai que si en Europe, pendant 200 ans, a régné le modèle créé par la Révolution française, c'est-à-dire les progrès par la révolte, le romantisme polonais a proposé en quelque sorte un autre modèle de dynamisme culturel par une sorte de non-violence, c'est-à-dire par le consensus culturel. Si tout le monde est d'accord, alors le monde doit changer. Vous allez dire, les insurrections, c'est pas la non-violence. Oui, mais les insurrections étaient quelque part seulement un geste de vote pour un consensus des valeurs. Et c'est comme ça qu'il s'était vécu. Et la dernière des insurrections, celle de Solidarno des années 80, c'était carrément non-violente. Et effectivement, le communisme est tombé. Donc, nous sommes toujours dans ces modèles. Et je pense que depuis Solidarno des années 80, c'est la fin du modèle révolutionnaire français. C'est le début du modèle de solidarité, des progrès par le consensus de l'opinion. Même ces films intimistes, c'est-à-dire Les Demoiselles des Vilcaux, La Chronique des Événements Amoureux, Les Bois de Bouleau, ces films intimistes reprennent le mythe des Kresse, des confins de l'ancienne Pologne. Vous savez que historiquement, les terres qui appartiennent aujourd'hui à la Lituanie, à la Biélorussie, à l'Ukraine, étaient polonaises. Et même, c'est là, dans le manoir des nobles, que la vie culturelle était la plus intense qu'à Varsovie même. Plusieurs grands poètes, y compris Mickiewicz, viennent de ces confins de la Pologne. Donc c'est la reprise de ces mythes, de ce souvenir des confins, même ces films intimistes, donc, qui montrent de nouveau un tiraillement, cette vérité tensionnelle, et non pas rationaliste, c'est-à-dire oui ou non, noir ou blanc, ici, est noir et le blanc.
La strada zrobiła na mnie wielkie wrażenie, bo to jest film jakby poza granicami.
La strada fait sur moi une très grande impression, car c'est un film qui vient d'une autre tradition, pas de notre habitude culturelle slave.
My nie mamy żadnego wyobrażenia.
Nous n'avons aucune imagination, aucune tradition théâtrale comparée à celle de l'Italie des troupes itinérantes. Je dirais qu'il n'y a aucune expression théâtrale populaire et naturelle.
To mi przypomina scenę, którą sam widziałem.
Ça me rappelle une scène dont j'étais témoin moi-même, tout de suite après la Deuxième Guerre en
1945.
Vous savez ce qui était très populaire, c'est le cinéma itinérant, sous le ciel à ciel ouvert. Et on y montrait bien sûr des scènes de guerre. Et très souvent, des soldats russes tiraient sur l'écran lorsqu'ils voyaient apparaître des Allemands.
Także widzi pan, jak jest daleko do Feliniego.
Vous voyez comme nous sommes loin de Fellini.
Może dlatego mi się to podobało, że to jest
tak, pour ça que ça m'a tellement plu.
Inny świat zupełnie.
Ça montre un monde tout à fait différent, des sentiments différents.
Dlatego, że ona nam się najbardziej wydawało w sensie obrazu.
Il nous semblait qu'au point de vue de l'image,
wyobrażenia, jak wygląda świat.
C'était le courant le plus proche de ce que nous pensions qu'était le monde.
Właśnie całe życie, całą wojnę myśmy spędzili w jakichś warsztatach.
Nous venions de passer toute notre jeune vie pendant la guerre dans des ruelles, dans des petits ateliers, dans des faubourgs.
Wśród ludzi biednych.
Parmi les gens pauvres.
Wśród robotników.
Parmi les ouvriers.
I to nam się podobało, że ktoś, że na ekranie pojawia się właśnie.
Et cela nous plaisait bien entendu de découvrir à l'écran le même monde.
I może dlatego on tak jest potem pokazany w filmie Pokolenie, że
c'est peut-être pour ça que je remontrerai un peu les mêmes choses dans Génération.
To ten obraz właśnie. My pierwsi w Polsce zaczęliśmy robić zdjęcia w pochmurny dzień.
C'est nous les premiers en Pologne qui avons commencé à tourner sous la pluie ou sous un ciel couvert.
W ogóle nie przyjęte, nikt nie chciał robić zdjęć w czasie deszczu.
Avant c'était impossible à envisager, personne n'aurait voulu tourner sous la pluie.
Ale my uważaliśmy, że to jest pięknie.
Mais nous trouvions que c'était justement très joli, superbe.
Zdjęcia, im mniej są,
plus tout cela était gris,
pittoreskno, takie malownicze.
Moins il y avait de pittoresque.
To tym bardziej nam się to podobało.
Cela nous plaisait d'autant plus.
En 1960, les innocents charmeurs. Dans le Varsovie du petit matin, un garçon cherche une fille. Elle a passé la nuit dans son appartement et s'est enfuie pendant qu'il dormait. La ville est grise et bruyante. Sur le trottoir, le garçon vole une Vespa.
Voyez-vous, c'est avec stupéfaction que je regarde cette scène. Je n'ai jamais revu ce film depuis que je tourne.
Donc je regardais ça
avec beaucoup de surprise.
Wydaje mi się lepszy niż myślałem.
Et là, ça me paraît meilleur que ce dont je gardais le souvenir. C'est un film que je n'aimais pas.
Wydawało mi się, że można było ten film zrobić lepiej.
Il m'a semblé qu'on pouvait le faire mieux.
To, że powinni grać.
Que j'aurais dû prendre d'autres acteurs.
I tak już zostałem przy swoim, a jakbym zobaczył film, no to jest niepotrzebna konfrontacja.
Et je suis resté avec cette idée, et revoir ce film, ça aurait été une confrontation inutile. Mais vous avez raison, la scène dans la rue est faite correctement. Mais ça, c'est déjà une esthétique un peu différente. Ça, c'est déjà l'esthétique de la nouvelle vague française. La musique, excellente musique de Komeda d'ailleurs.
I obrazy właśnie takie, które płyną.
Et ces images qui flottent.
Tylko zamiast mojego bohatera powinny iść Jean Moreau.
Seulement à la place de mon héros, ça devrait être Jean Moreau.
Więc ja dzięki La Strada zobaczyłem tu w Paryżu.
C'est à Paris que j'ai vu La Strada.
Pierwsze filmy nowej fali, à bout de souffle.
Le premier film de la nouvelle vague, à bout de souffle, de Godard.
To zobaczyłem tutaj i w ogóle przyjeżdżałem się do Paryża przede wszystkim, żeby zobaczyć.
Ici, je venais à Paris surtout pour voir de nouveaux films.
Nawet jeżeli przychodziły do Polski, car to z takim dużym opóźnieniem.
S'il venait en Pologne, il venait avec beaucoup de retard. Et la nouvelle vague m'avait beaucoup plu, justement pour ce genre de sujet.
Je propose maintenant de regarder quelque chose de complètement artificiel, qui est aussi félinien, si l'on considère que Fellini a réalisé beaucoup de films avec l'imaginaire, en faisant travailler ses fantasmes. Et l'on va regarder quelque chose qui pourrait être félinien, mais qui est quand même vache d'Aïen, si l'on peut dire.
Od świętnie przybranej auli Politechniki Warszawskiej zgromadzili się na dorocznym balu sylwestrowym wszyscy ci, którym nasz kraj zawdzięcza najwięcej. Dostojnicy partii i rządu, bohaterowie pracy socjalistycznej, przodujący rolnicy, nauczyciele i uczeni. Przyjrzyjmy się jednemu z nich. Mateusz Birkut, sławny przodownik pracy z kombinatu Nowa Huta.
L'homme de marbre. Lieu Nowa Huta. Le plus grand chantier de Pologne, à quelques kilomètres de Cracovie. Dans ce paysage de terre et de trous, les autorités ont réuni la foule des grands jours et sorti la caméra. Aujourd'hui, la propagande tourne. Le héros du film, c'est Birkut, ouvrier modèle, qui doit monter un mur de 30 000 briques en une seule journée. À ses côtés, pour l'aider, une brigade de maçons, et un peu plus loin, les flonflons d'un orchestre.
J'ai donc pu faire cette scène, oui, monter le mur, parce que j'avais vu déjà auparavant comment ça se faisait. Et d'un côté, il y a le sérieux et une peine très difficile de ceux qui construisent le mur. Et puis tout le fond qui est drôle ou même ridicule, je dirais populaire. Je crois que là, il y a du jeu. Ces maçons travaillent sérieusement, ils doivent construire un mur. Mais en même temps, avec tout ce qui les entoure, cette mise en scène qui est faite en fait derrière leur dos, c'est ça qui est drôle et même répugnant. Qu'est-ce que les censeurs voulaient couper là-dedans? Le fait qu'on lui donne à manger, on lui sert un petit déjeuner avant qu'il se mette à travailler. Ça n'avait pas plu aux censeurs. Ils tenaient beaucoup à l'éliminer.
No i oczywiście trzeba dodać, że jeżeli ta idea była wyrażona
et
w słowach...
Il faut encore ajouter le fait que si on exprime une idée à travers
dialogu,
des mots dans le dialogue,
była narażona bardziej na cenzurę,
là elle s'exposait plus au sujet de la censure. En revanche, quand c'est exprimé par des images...
Z tego prostego powodu, że każda ideologia jest wyrażona w słowach.
Vous avez pour la raison toute simple, c'est que toute idéologie est exprimée à travers des mots.
I każdy system ideologiczny.
Et chaque système idéologique
broni słów.
Défend des paroles.
Bo za słowami stoją te wszystkie, że tak powiem, no jakby hierarchia.
Car c'est derrière les paroles que se cache toute la hiérarchie du système.
No ale szczęśliwym trafem film jest
oui,
równocześnie.
Par une heureuse coïncidence, le film c'est aussi l'art de l'image.
I myślę, że ta presja cenzury.
Et je pense que cette pression de la censure.
W ogromnym stopniu wpłynęła na fakt, że polskie kino
a beaucoup influé sur le fait que le cinéma polonais s'est exprimé plus par des images.
Koniec zmiany 30509 cegieł.
Koniec!
Jest!
Nie, no
jest! Nie wydały raport w budownictwie. Mateusz Birkut ze swoim zespołem nie tylko ułożył zapowiedzianą ilość 28 tysięcy cegieł w murach podziemia, ale ilość tę znacznie przekroczył. Patrzę na tablicę wyników. 30 509
cegieł. Serdecznie gratuluję. Wzruszenie ogarnia się. Koniec! Koniec zmiany! Koniec zmiany! No, Birku!
Witold Gombrowicz dobrze powiedział.
Witold Gombrowicz le très bien dit.
Ktoś nie umie podporządkować,
si znaleźć ne se
sposobu
na se cenzurę, et trouver un moyen de dépasser les censeurs, c'est pas la peine qu'il écrive.
Dlatego, że cenzura, my jesteśmy przyzwyczajeni, cenzura polityczna straszna.
Nous, nous avons tendance à dire que la censure politique est quelque chose de terrible.
Ale każdy artysta jest poddany
en fait,
cenzurze.
Chaque artiste est soumis à la censure.
Cenzuruje jego wychowanie.
Il est censuré par son éducation, parce qu'il a reçu chez lui à la maison.
Cenzuruje go jego religię.
Il est censuré par sa religion.
Cenzurują go pewne zasady, które mu wpoili.
Il est censuré par certains principes qu'il a appris, soit à la maison, soit dans l'armée.
To też jest cenzura.
Je parle du patriotisme. Tout cela, c'est aussi une forme de censure.
I z tą cenzurą jest trudniej walczyć niż z instytucją cenzury.
Censure qu'il est beaucoup plus difficile de combattre que l'institution de la censure.
I trudność nie polega na tym, żeby zrobić film, który
la difficulté n'est pas de faire un film qui sera censuré.
Tylko zrób film, który ci nie mogą ocenzurować.
Mais de faire un film qu'on ne pourra pas censurer.
Czyli zrób coś takiego, żeby sama donc, cenzura była zdziwiona, że
tu
ma
dois faire
cenzurę.
Quelque chose qui va même étonner les censeurs et qui vont se dire on ne peut pas le censurer.
Ważne jest, czy ten, który robi film, jest dostatecznie wolny.
Ce qui est important, c'est sa liberté intérieure.
Żeby
si la personne qui réalise un film a suffisamment de cette liberté à l'intérieur,
no a potem żyje się w pewnej rzeczywistości.
Et puis après, on vit dans une certaine réalité.
Musi też wkroczyć.
Et il faut bien que la réalité intervienne aussi.
Nie trzeba udawać, że się o tym nie wie.
Il ne faut pas faire semblant de ne pas être au courant.
Wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, że reżyser nie może
się okłamać. Il me semble que c'est très important de se dire la vérité à soi-même, ne pas se mentir.
Dlatego dla mnie cenzura nie była.
C'est pourquoi pour moi la censure.
Nie chcę powiedzieć, że nie była przeszkodą, bo
je ne veux pas dire que c'était pas un obstacle.
Wielu filmów,
il y a beaucoup de films que j'aurais pu faire que je n'ai jamais fait.
Film dotyczący Katynia.
Je voulais faire un film sur Katyn. Je voulais faire un film sur le 17 septembre 1939 où l'armée soviétique entre en Pologne. Ça, c'était des sujets absolument impossibles à aborder. Plus, on ne pouvait montrer à l'écran en fait aucun écrivain russe. Je suis allé en Yougoslavie pour faire la Lady Macbeth sibérienne. Car en Pologne, on trouvait que toute la littérature russe était réservée aux réalisateurs soviétiques.
Thank you.
il a essayé toujours de prendre la température du temps. Il a essayé toujours d'attraper quelque chose qui est le plus important dans le monde extérieur et dans les têtes des gens.
Agnieszka Holland, réalisatrice et scénariste.
Il a essayé toujours d'échapper aux clichés aussi. Ça veut dire qu'il était toujours en mouvement. Son cinéma ne s'est jamais reposé sur certaines valeurs acquises. Il a pris le risque toujours dans son cinéma. De temps en temps, ça marchait, de temps en temps, ça ne marchait pas. De temps en temps, il s'est vraiment fait avoir. Mais je pense que son souci le plus grand, c'était toujours s'il communiquait. Ça veut dire, c'était le souci de la communication. À cause de ça, le public était tellement important pour lui, toujours. Son parcours n'était pas linéaire. Ça veut dire qu'il y avait très grand succès. Après, il avait des échecs. De temps en temps, ses films étaient jugés dans les façons injustes. De temps en temps, il a fait des films qui étaient très faibles, très bon, pas réussis. C'est-à-dire, se faire voir, je pense pas seulement par les autorités, par la censure ou par la critique, mais aussi par lui-même.
Il dit qu'il travaille toujours pour le public. Apparemment, en Pologne, le public lui a été fidèle.
Pendant deux décennies, c'est-à-dire très longtemps, le public lui était très fidèle. Oui. Il y avait des films qui ont moins marché, bien sûr, mais même ces films, quand on voit aujourd'hui quels sont les box-office et les réussites de cinéma, et on compare ça avec certains films de Wajda qui ont eu quelques millions de spectateurs, en Pologne seulement. Pourtant, ce n'était pas des films faciles, c'était toujours des films qui ont posé des problèmes très graves.
Gdańsk, décembre 70. Les chantiers navals sont en grève. Les ouvriers polonais protestent contre la hausse des prix et manifestent dans la rue. Lorsqu'ils arrivent à la gare de Gdynia, la police et l'armée affolée tirent sur eux et sur les voyageurs qui descendent d'un train. Par radio, miliciens et militaires se concertent pour vite faire disparaître les cadavres. Plusieurs dizaines après le massacre. Document sonore, Polski Radio.
Je n'ai pas l'esprit d'un censeur.
Et
si je l'avais, je ne pourrais pas me réaliser des films.
Et
puisque je suis un metteur en scène de cinéma, je n'arrivais pas à entrer dans l'esprit d'un censeur. Ce sont quand même des esprits très éloignés. Mais je pouvais quand même mettre à profit mon imagination. Mais si je vous racontais ce qu'on a coupé dans mes films, je dois vous dire que quand même dans la majorité de cas, je n'arrivais pas à prévoir. Pour l'homme de fer, pour l'homme de marbre, pardon. Il a fallu que je coupe une scène où la jeune femme, réalisatrice de télévision, va au cimetière pour trouver la tombe de son héros. Elle ne trouve pas cette tombe. Elle sort du cimetière, elle met la gerbe sur le portail du cimetière parce qu'elle n'a pas trouvé de tombe. Et les assistants me disaient qu'il fallait absolument que la gerbe soit rouge et blanche, puisque ce sont nos couleurs nationales.
Non,
donnez-moi des fleurs jaunes, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Et même avec les fleurs jaunes, les censeurs ont tenu à ce que la scène soit coupée. Car le principe était le suivant. Ceux qui sont morts, on les a tous identifiés, enterrés par leur famille officiellement. Je crois qu'il y avait 48 ou 49 tombait pendant ces événements de décembre 70.
Polska należała do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Vous savez que la Pologne faisait déjà partie de l'ONU. S'il y avait eu plus de 50 morts,
to już powinna się pojawić komisja Narodów Zjednoczonych, żeby
on aurait dû faire appel à une commission des Nations Unies pour voir ce qui s'était réellement passé.
Wiadomo było, że nie było więcej.
Donc, on savait parfaitement qu'il y avait moins de 50
morts. Wszystkie nazwiska są znane.
Tous leurs noms étaient connus.
Nie ma żadnych grobów tajnych.
Il n'y a aucune tombe secrète.
Scena została wycięta.
Donc la scène a dû être coupée.
Pan oczywiście widział tą scenę.
Bien sûr, vous avez vu cette
bo
scène.
Bo ja ją trzymałem pod łóżkiem.
Parce que moi, je l'ai gardé sous mon lit.
Razem z negatywem.
Le négatif et
i
la
copie. Jak zacząłem robić człowieka z żelaza.
Et lorsque je tournais quelques années plus tard l'homme de fer, dans des conditions tout à fait différentes, j'avais à ce moment-là beaucoup plus de force face à la censure. Et j'ai collé dans l'homme de fer cette scène.
Grabówka, chłopcy z Chyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską. Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha.
Były pewnie i tragiczne wydarzenia związane
bien
z cenzurą.
Bien sûr, il devait y avoir aussi des événements tragiques liés à la censure.
Trzeba to było traktować jako część mojej.
Mais il fallait considérer cette existence de cette institution comme faisant partie de mon travail de tous les jours.
Jak trzęsienie ziemi.
Et non pas à chaque fois comme un tremblement de terre.
Przecież gdybym pracował na zachodzie.
Mais voyez-vous si je travaillais à l'ouest.
W Hollywood też moi producenci.
A Hollywood aussi, mes producteurs interviendraient, transformeraient mes films.
Tylko, że tam się nie nazywa cenzura.
Seulement là-bas, ça ne s'appelle pas la censure.
To się nazywa prawo producenta do
on ingerencji. Dit que c'est le droit du producteur à ingérer dans le film, qui est garanti par
jest
contrat.
Kto montuje film, czy producent, czy reżyser.
On dit dans le contrat qui a le droit de monter le film, le producteur ou le metteur en scène. Et cela n'étonne personne.
Ale ponieważ komuniści strasznie zależało, żeby wytworzyć pozory.
Mais comme les communistes tenaient beaucoup à garder les apparences de la liberté.
Bo tam, gdzie nie ma prawdziwej wolności, walka o pozory
car à chaque
jest
fois qu'il n'y a pas de liberté véritable, toute la lutte pour sauver ou garder les apparences est très intense.
Na tym kłamstwie,
alors il y a un mensonge
pomiędzy wolnością, a pomiędzy złudzeniem wolności.
Entre la liberté et l'illusion de la liberté,
było moje miejsce.
J'ai dû y trouver ma place.
Comment le présenteriez-vous, Andrzej Wajda?
Je ne sais pas si ce sera possible, vous savez, parce que c'est, je le connais tellement bien. Il est tellement important pour moi. Je connais tellement de choses sur lui, moi, que ce sera peut-être impossible de le résumer en quelques phrases. Je peux exprimer mon amour et mon respect pour lui, mais ça me sera difficile de le résumer.
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu?
Kiciuś, le petit chat, parce qu'on l'a surnommé comme ça quand on était jeune, quand on a commencé de faire le cinéma. On avait une relation assez ambiguë avec lui, parce qu'il était très grand à l'époque déjà. Il était comme un maître, mais en même temps, il ne se comportait pas en maître. Il était, je pense, en train de changer son style ou de changer son champ d'intérêt. Il était très concentré sur lui-même, mais pas égoïste, c'est pas ça. C'est juste qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées en lui et il était un peu insaisissable pour nous. Il n'entrait pas dans aucun cage, il n'était pas un vieux maître gentil, il était un homme extrêmement dynamique, mais en même temps on ne pouvait pas l'attraper. Et, on s'est un peu battu avec lui, c'est-à-dire dans nos têtes, ce qui est, je pense, tout à fait logique entre les générations. Et moi, je sentais en lui aussi une très grande fragilité tout de suite. Ça veut dire on a essayé de l'attraper, on n'arrivait pas. On l'a surnommé le petit chat. Voilà.
Andrzej Wajda a beaucoup adapté d'œuvres littéraires au cinéma, avec bonheur. Alors qu'est-ce qui lui plaît dans un scénario? Vous qui avez écrit pour lui, qui avez commencé à écrire sans anesthésie, qu'est-ce qui lui plaisait dans vos scénarios, justement?
C'est difficile à résumer aussi, hein, parce que vous savez, moi je le sentais, mais c'est très instinctif. Ça veut dire qu'il faut que le scénario, la scène, le personnage réveillent en lui une espèce d'inspiration. Moi, quand j'écrivais pour lui des scènes ou des scénarios, j'ai toujours commencé par en lui racontant qu'est-ce que je vais écrire, hein, en lui racontant des scènes, en racontant des situations. S'il a dit « Ah oui, c'est très bien, c'est très bien », je savais que c'est pas bien du tout. Et quand il s'est réveillé soudain, il a commencé d'être excité, de poser des questions, etc., je savais que c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire, c'est très instinctif, il travaille dans la façon très instinctive. Il aime les personnages qui sont très forts, très compliqués, complexes, mais en même temps qui ont certaines notes morales qui est très prononcées. Il n'aime pas des personnages qui sont très ambigus. Hein. Il aime les personnages qui sont plus américains, disons. Il aime les situations très expressives et dramatiquement aussi très prononcées. Il n'aime pas des situations qui sont à mi-temps. Il est très curieux aussi bien pour le travail des autres et pour les œuvres d'art que pour la vie. Mais je pense qu'il n'a pas ce sens d'observation de la vie directe. Il a besoin d'un intermédiaire pour saisir la réalité. C'est à cause de ça qu'il a besoin de la littérature. Il a besoin que la réalité soit déjà traduite dans une espèce de la forme exacte pour après trouver son rapport avec cette réalité. Et moi, j'étais plus inspirée par la réalité. Par exemple, quand on s'est raconté des choses, et par exemple, moi, j'ai dit, écoute, j'ai vu aujourd'hui ça et ça et ça. Et il m'a dit, et il m'a raconté, tu sais, X ou Y, aujourd'hui, il m'a raconté une histoire formidable. Ça veut dire qu'il avait besoin de quelqu'un qui a déjà raconté la réalité pour l'approprier.
Przepraszam, nie poznałem cię. Tyle lat. Bolesław.
En 1970, le bois de Boulot. Depuis que sa femme est morte, Bolesław vit avec sa fille Ola au milieu de la forêt. La maison est entourée de bouleaux. Ce soir, Bolesław réveille sa fille pour lui offrir des bonbons et la questionner. Il veut savoir si son frère venait en cachette à la maison quand lui s'absentait. D'abord souriante, Ola prend peur et ne répond pas. Mécontent, Bolesław secoue la petite fille comme une poupée de chiffon. Les larmes dans les yeux, Ola est incapable de bouger, paralysée de terreur.
Tak? Odpowiedz. No powiedz, no czemu nie odpowiadasz? No tatuś cię pyta, odpowiedz. Byłeś, tak? Tak? No czemu nie odpowiedz? Co nabrałeś wody w usta? Odpowiadaj. No mówię ci, byłeś dziś u Michała, tak? No odpowiedz! Odpowiadaj. Może drugiego chcesz? Chcesz? No odpowiadaj, no!
Nie.
Nie chcesz. Stój!
Zimna ci może.
w opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza.
To le récit. Bois de Bouleau de Jarosław Iwaszkiewicz. Cette scène-là n'existe pas.
Jest napisane tylko, że on ciągle, znaczy jakby jest jego rozmyślanie.
L'auteur mentionne fait part de réflexion du père.
On przypomina sobie, jak bardzo wraca do niego ta
qui se souvient de sa jalousie d'autrefois.
Że żona ożywiała się, kiedy brat przyjechał.
Que la femme devenait plus vivante quand son frère venait.
No, ale ja nie chciałem robić żadnych retrospekcji.
Oui, mais moi je n'ai pas voulu faire de retrospekcji, de flashback.
Nie było mi do niczego potrzebne.
Je n'avais pas besoin du personnage de la femme dans ce film.
I postanowiłem użyć do tego tego dziecka.
J'ai donc décidé d'utiliser à la place l'enfant.
To jest dziecko, które grało pierwszy raz w życiu.
C'est un enfant qui était pour la première fois à l'écran.
Z biednej rodziny.
Qui était originaire d'une famille pauvre.
Pamiętam, że kupiłem jej rower, kiedy się skończył.
Je me souviens qu'à la fin du tournage, je lui achetais un vélo.
A kiedy Daniel miał 50 lat, teraz obchodziliśmy w zeszłym
et
roku.
Et là, récemment, nous avons fêté le 50e anniversaire de Daniel Obrzycki. Il s'est montré à la télévision.
Ci, którzy zorganizowali, że tak powiem, ten wieczór, zrobili
mu niespodziankę. Les organisateurs de la soirée lui ont fait une surprise.
I sprowadzili tą dziewczynkę jako już dojrzałą
kobietę. Ils ont fait venir cette petite fille qui maintenant est une femme adulte.
Muszę powiedzieć, że spotkanie ich było równie wzruszające.
Je dois vous dire que leur rencontre était pour moi très émouvante. Peut-être aussi émouvante que ce que je viens de voir à l'écran.
Oczywiście, że żeby dobrze zrobić taką scenę, to trzeba
bien sûr, pour bien faire une telle scène,
mieć z jednej strony dobry pomysł.
Il faut avoir d'un côté une bonne idée.
Całkowicie z zimną kalkulacją.
Et d'un autre côté, faut réaliser ça, mettre ça en scène avec un calcul très froid.
I to było zrobione tak, że
et comment nous l'avons fait?
Ja z kamerą za oknem.
Moi, j'étais avec la caméra derrière la fenêtre.
Okno było otwarte.
La fenêtre
ouverte. We wnętrzu naturalnym.
C'était dans un intérieur naturel.
Dosyć daleko.
J'étais assez loin.
Kamerę otoczyli ludzie plecami, także my stoimy i rozmawiamy. Nie było widać, że kamera robi.
On ne voyait même pas que la caméra tournait, même si on regardait de notre côté. Il y avait des gens de dos. En tout cas, la caméra n'était pas très apparente.
Olbryski jest bardzo precyzyjnym aktorem.
Olbryski est un acteur très précis.
Wiedział, jaka jest przestrzeń, kiedy widać
dziewczynkę, il savait parfaitement comment se placer dans cet espace pour que le visage de la fille soit visible ou ne pas visible. Il jouait de manière très vraie, pleine d'expression. On a l'impression qu'il est entièrement accaparé par ce qu'il fait. Et en même temps, de manière très lucide, il plaçait la fille face à la caméra. Au moment où il voyait que son visage devait être montré. Donc il y avait beaucoup de cynisme dans ce qu'on faisait. L'enfant ne se rendait pas du tout compte de ce qu'on faisait. Elle n'a pas lu le récit, on ne lui a pas raconté ce qui allait se passer. Ce n'était pas nécessaire. Donc elle se trouvait réellement placée dans la situation où aurait été l'enfant d'Olbryski. Elle ne sait pas trop ce que le père lui veut. Elle voit qu'il a besoin de quelque chose, elle ne peut pas lui répondre, parce que d'un côté, le dialogue n'était pas écrit par Iwaszkiewicz. Mais aussi parce que, comme dans la réalité, elle n'a rien à lui dire. Elle n'était pas vraiment témoin de la scène. Comme elle ne répond pas, elle suscite encore plus de jalousie chez l'homme.
A jeszcze w dodatku ten brat, który
en plus, ce frère,
który jest w drugim pokoju i
qui est dans la chambre voisine, qui entend leur discussion,
dobrze się to łączy razem.
Je crois que ça se monte bien.
Ponieważ ja byłem zawsze szalenie zdrowym psychicznie człowiekiem.
Moi, j'étais toujours quelqu'un de très sain psychiquement.
Więc taki mam stosunek do całego świata, że wszyscy
et
też są tacy sami.
Que je vois le monde entier, je pense que tout le monde est sain psychiquement.
I myślę, że dla reżysera to jest dobry punkt widzenia.
Je pense que pour un metteur en scène, c'est un bon point de vue.
No, przykro mi było,
bien sûr, ça me faisait de la peine, parce que je voyais que l'enfant souffrait.
Ono wróci do równowagi.
Mais je me disais qu'elle allait retrouver son équilibre.
No, także nie odważyłbym się pewnie dzisiaj już zrobić.
Wiesz, tak aujourd'hui, je n'aurais pas le courage de faire telle scène. Ça aurait été trop douloureux.
Wojtek Pszczoniak.
Wajda était peintre. Donc, il vous raconte une scène. Il vous dit, ici, tu vois, je vois cette scène. Tu vois, c'est un peu, pas beaucoup de lumière. Tu vois, c'est assez calme, c'est silence. Et ça, pour moi personnellement, tout d'un coup, il me donne une occasion de créer mon propre film. Donc, je tourne ma tête. Après, je vois ce personnage. J'essaye de me dire, ah d'accord, si j'ai bien compris, regarde-moi. Et automatiquement, on propose des choses. Et c'est ça ce qui est difficile pour un comédien qui attend. Qui attend, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que maintenant je fais? Je ne sais pas. Alors, c'est difficile.
Y a-t-il des frictions parfois? Y a-t-il des accrochages? Parce que quand on vous écoute, tout semble idyllique.
La grande confiance au comédien, c'est peut-être pas pour tous, mais quand même... C'est, tous ces films basent sur le comédien, n'est-ce pas? Donc il a besoin de comédien, il travaille bien différemment. Bien sûr, l'accrochage, pas avec moi personnellement. Il m'a demandé par exemple de proposer une scène d'Anton que je dois m'appuyer sur un truc. J'ai essayé, j'ai dit écoute, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, je vois pas que dans cette situation, Robespierre peut s'appuyer à la conciergerie en tendant de Moulin. Donc je dis, par exemple, mais c'est pas l'accrochage, tout simplement. Ah bon, tu crois? Ah oui, j'en suis sûr. Et on va faire deux versions, la mienne, et puis finalement, on a choisi la mienne. Bon, mais Vaida n'est pas conflictueux, hein. C'est pas quelqu'un qui cherche... c'est pas Piala, hein.
Patrą za jedno bezdienne gajlich dla najnawe.
1975, la terre de la grande promesse. Łódź, la capitale du textile à la fin du siècle dernier. Avec la révolution industrielle, la Pologne respire au rythme infernal des manufactures et de leur cadence inhumaine. Les fortunes démesurées font tourner les têtes. Trois copains décident de monter leur propre usine de textile. Max est allemand, Carole polonais et Maurice juif. Dans La Terre de la Grande Promesse, vous jouez un juif truculent, Maurice, ou Moritz en polonais, peut-être bien. Ouais. Moritz. Mmh. Quelle est la répartition, si l'on peut dire, des talents de chacun pour que ce personnage éclate autant, soit aussi truculent à l'écran?
D'abord, ce livre est très très connu en Pologne. Et quand Wajda m'a proposé Moritz, je lui ai dit oui, d'accord, mais c'est une seule condition. Moritz, dans ce livre, finalement, il trahit Borowiecki, polonais. Et je lui ai dit, écoute, si Moritz, comme dans ce livre, il n'est pas loyal face à Borowiecki, donc ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, soit tu changes ce rôle, soit demande un autre comédien. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque, nous sommes en 72, donc 4 ans après le purge de la part du gouvernement, du parti communiste, vraiment l'époque 68, hein, l'époque de l'antisémitisme déclenché. Donc, premièrement, je ne suis pas d'accord quand on montre un juif qui trahit un polonais. Ça, je me suis dit non. Ça ne m'intéresse pas. Plutôt, pour moi, personnellement, c'est beaucoup plus intéressant de faire un film sur l'amitié. Il a accepté ça, et dans cet esprit-là, j'ai créé Moritz, qui est différent dans ses livres. Et ce livre était considéré à l'époque, à Lodz, une ville capitaliste, tout ça, comme un livre antisémite. À cause de ça. C'est pour ça que j'ai modifié comme ça. C'est mon rôle, Moritz, c'est mon rôle. Il n'est pas... Et d'abord, il est dans ce livre, il est grand, il est jeune homme, beau, tout ça. C'était complètement différent, bon. Mais ce qui n'est pas essentiel. Essentiel que Moritz, c'est quelqu'un d'autre. Dans ce livre, il est impitoyable, dur, un loup qui fonce sans regarder les autres. Et moi, je ne voulais pas jouer un personnage comme ça.
Odstąpcie mi ten interes, a ja wam dam 5, no, 10 tysięcy odstępnego. Niech stracę. I to gotówką. Barę z geld za parę godzin.
Świna. Daj spokój, Max. On to robi z przyjaźni.
Jojo, z przyjaźni.
A to tak właśnie, z przyjaźni. Bo jak ja stracę? O.
Tam weksel dobry
był. Nie, nie, nie traćmy czasu na próżne gadanie. Kupujemy wszyscy na wspólne ryzyko, a on jedzie dzisiaj do domu.
Il n'y a pas de décor dans ce film. Tout est dans le naturel à Lodz. Et Vaida, même de l'usine ancienne qui a travaillé depuis le début du siècle, c'est le bruit, tout est vrai. Hein? C'est comme un document. Et Vaida a voulu faire ce film parce qu'il a dit peut-être dans quelques années, Lodz et tout ce qui reste encore va disparaître. Quand vous voyez ces machines... ancienne qui travaille avec des femmes qui travaillaient, c'est dans l'époque du communisme en Pologne, se battaient pour le droit des ouvriers, tout ça, de le confort du travail. Il était dans la même condition que les femmes au début du siècle, donc un progrès technique, soi-disant. Bon. Et l'atmosphère était magnifique. On se sentait comme un sport. On habitait ensemble à l'hôtel, donc on s'est rappelé chaque soir. On a essayé d'améliorer le scénario, tout ça. On s'est rappelé la nuit, toute l'équipe. C'est vraiment un grand bonheur. Donc c'est pas, vous savez, l'équipe travaille, bon, on finit à 18h, fini, ciao ciao, on s'en va demain à 7h. Non, c'était complètement différent.
Wełna i inni siedzą spokojnie. Au pasów odeś się klapa.
Muszę powiedzieć jeszcze o ziemi obiecanej.
Je dois encore vous parler de la terre de la grande promesse. C'était ça le début de tout le conflit.
Muszę powiedzieć, że ziemia obiecana jest jakimś realistycznym obrazem.
La terre de la grande promesse est une image réaliste
który właśnie na przełomie wieku.
De ce qui s'était produit à la fin du 19e siècle. C'était l'image de Lodz. C'est un roman très réaliste.
I postacie tych Żydów są postaciami.
Et les personnages de Juifs qu'on y découvre sont de vrais personnages. Ils s'exprimaient ainsi. Leurs dialogues sont écrits tels quels par l'auteur. Je ne vois donc vraiment pas de raison de les présenter de manière différente. Mais il n'y a pas que des Juifs, et on ne peut pas dire qu'il n'y a que des Juifs dans la terre de la Grande Promesse.
Że amerykańscy Żydzi, bo ten
je comprends que de films américains, que de juifs américains, car ce film a trouvé beaucoup de réticence de la part de juifs américains.
Ja rozumiem, że amerykańscy Żydzi wolą.
Je comprends très bien que de juifs américains préfèrent descendre.
Skrzypka na dachu.
Du violoniste sur le toit.
Niż od Żydów z ziemi obiecanej.
Plutôt que des juifs tels qu'ils étaient dans la terre de la grande promesse.
Na pewno wybór bardziej sentymentalny, że
je crois que c'est un choix plus sentimental de se dire il y avait des petits villages. Un peu le monde de Chagall.
No, ale przecież Żydzi odgrywali bardzo istotną rolę w
Mais quand même, les Juifs ont joué un rôle très important dans toute l'Europe de l'Est.
Wszyscy grali na skrzypcach.
Et ils n'étaient pas tous violonistes.
W związku z tym mnie się wydawało, że mam prawo.
Donc moi, il me semblait que j'avais le droit de montrer cela.
Tym bardziej, że w rezultacie najsympatyczniejszą postacią na ekranie w Ziemi obiecanej jest właśnie Żyd.
Somme toute, le personnage le plus agréable, le plus sympathique de la Terre de la Grande Promesse, c'est le juif joué par Wojtek Pszczoniak.
I który zdobywa tutaj najwięcej sympatii widowni, więc myślałem,
c'est lui qui a certainement su s'acquérir le plus de sympathie du public.
Że tą, że tak powiem, że trzeba wszystkich obdzielić jednakowo rządzą pieniędzmi.
Je crois qu'il fallait montrer que leur volonté d'argent était la même, qu'ils soient juifs, allemands ou polonais.
Michel Masłowski.
Wajda pour moi n'est absolument pas antisémite, mais il montre la présence juive dans la culture polonaise avec ses ombres et ses lumières comme une partie intégrante d'un grand ensemble de plusieurs cultures, confessions et nationalités de l'ancienne Pologne, c'est tout. Quoi. Voilà. Je ne sais pas en quoi il pourrait-il être antisémite. Ces arguments m'ont toujours échappé.
Mais pourquoi a-t-on interprété son cinéma comme un cinéma parfois antisémite, d'après vous ?
Mais parce que, par exemple, dans l'hôtel de la Grande Promesse, on montre un juif rapace. On montre aussi un polonais rapace et un allemand rapace. Parce que le capitalisme a formé des gens rapaces, qu'ils soient juifs, allemands ou polonais. Il y a une sorte de parité. C'est pas de l'antisémitisme, quoi. Il y a en même temps un juif positif. Pszczoniak est un juif. Et il est positif dans les contextes du film, évidemment. Parce que tous les trois sont aussi bons ou aussi mauvais. Et il est ami c'est les trois amis, c'est le polonais, l'allemand et les juifs. Voilà. En quoi c'est antisémite? Parce que les juifs sont montrés mal, mais les polonais et allemands sont montrés aussi mal. C'est pas antisémite. C'est anticapitaliste, si on veut.
Monsieur Vajda, en France, on a beaucoup critiqué votre regard sur les Juifs en Pologne. Et l'on a beaucoup critiqué le fait que vous montriez des Juifs peu combattants. Et notamment dans la Semaine Sainte, où Irena part aux mains de ceux qui massacrent tous les siens dans le ghetto. Comment recevez-vous ces critiques ?
Je muszę powiedzieć, że trudno mi się zgodzić.
Je dois vous dire que je ne peux pas entièrement accepter cela.
C'est
quand même étrange que ici se trouve la voix de la conscience de tous les Juifs du monde.
Ce qui
me déplaît encore plus, c'est que cette voix s'arroge un droit à l'exclusivité. Je vous cite un exemple.
Docteur Korczak został przyjęty przez recenzję w Le Monde.
Le docteur Korczak a eu comme critique dans Le Monde.
Która całkowicie go zniszczyła i uniemożliwiła mu obecność na francuskich ekranach.
Autant que possible, qui a en fait privé de l'existence dans des cinémas français.
A równocześnie ministerstwo edukacji.
En même temps, le ministère de l'éducation en Israël
zaleciło ten film.
A recommandé que ce film soit regardé.
Film dla dzieci szkolnych.
Pour les enfants dans les écoles, en disant qu'il était nécessaire qu'ils le voient.
No to jest jakby za duża rozpiętość.
Il me semble que là,
la
différence
moralnie.
D'appréciation morale est
bo
bien trop grande. Et je comprends bien que l'appréciation artistique n'entrait pas du tout en ligne de compte.
Ale jeżeli można na ten film spojrzeć tak, jak patrzą ci wychowawcy.
Si on peut avoir sur ce film le regard qui est celui des éducateurs ou des enseignants israéliens.
I ci, którzy chcą się podawać za wychowawców we Francji.
Ou bien avoir le regard de ceux qui voudraient jouer le rôle des éducateurs, sinon plus en France.
Myślę, że zrobiłem to, co powinienem był.
Moi, je crois avoir fait ce que j'avais à faire.
I niezależnie od tej oceny.
Et maintenant, indépendamment du fait comment il était reçu chez vous. Je crois que ce film a rempli son rôle. Je ne vais en rien empêcher d'autres faire des films sur des Juifs. Je n'ai pas critiqué ces autres films. Alors je vous en prie, j'apporte ma voix. Et je suis heureux, je suis content si cette voix est acceptée ou trouve de l'appréciation chez des Juifs. Je dois vous dire que Marek Edelman, qui est le dernier des commandants de l'insurrection du ghetto de Varsovie encore en vie, a non seulement accepté, mais il a défendu ce film.
...1990, Korczak, la fin du film. Dans le ghetto de Varsovie, les Allemands obligent le docteur Korczak à évacuer son orphelinat. Pour ne pas inquiéter les enfants, Korczak leur fait croire qu'ils partent en excursion. Korczak part avec eux.
Was ist los? Gut, meine Herren, innerhalb einer Viertelstunde sind wir fertig. Meister V, za 15 minut.
Dzieci, jedziemy na wycieczkę. Wszyscy przebierają się w najlepsze ubrania, pakujemy plecaki. Mamy mało czasu, więc weźmiemy tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
Wojtek Pszczeniak.
Je savais que Vaïda essaye de faire film sur la vie de Korczak. Je me suis dit, comment c'est possible, il n'y a rien de spectaculaire dans sa vie. À part de sa mort, mais on ne sait pas exactement comment il est mort. Bon, il était gazé avec ses enfants, bon, mais on... Il n'y a pas de témoignage, personne n'a survécu de ce moment. Donc, et finalement, je me suis enfermé presque un an et j'ai ramassé tous les livres sur lui, témoignages, sans le cahier du ghetto, qui finalement est devenu pour moi essentiel, document. Et je me suis enfermé, j'ai étudié comme ça, parce qu'on ne peut pas jouer Korczak dans cette conception de ce film. Il n'y a rien, il est présent, on peut pas, c'est pas un rôle pour moi. C'est pour ça, c'est dur pour moi. Après le tournage, pendant plusieurs mois, je ne pouvais pas parler de lui. Parce que ça m'a touché, ça m'a coupé le souffle. J'étais trop traumatisé, si vous voulez. Donc j'ai vécu une période d'au moins 2 ans avec Korczak. Tout ce qu'il a vécu, il y a beaucoup de gens qui se souviennent de Korczak. En plus, comme j'ai poussé la barbe, tout le monde a trouvé que je ressemble 100% à Korczak. Ça m'a aidé aussi, physiquement, c'est très important ça. Donc, on ne sait pas comme il était. Et par exemple, il buvait la vodka, par exemple. C'est-à-dire, il avait un problème, n'est-ce pas? Et toute l'histoire d'un ghetto à Varsovie, avec ses enfants, quand il était très célèbre, tout ça, et les Allemands voulu sauver. Il dit, écoutez, parce qu'il était connu, parce qu'à Berlin, il a enseigné, donc il était connu comme un psychologue, spécialiste des enfants, tout ça. Donc, je voulais vivre avec ce personnage. Comme ça, petit à petit, par osmose, je suis devenu Korczak pour certains temps. Pour moi, c'était une expérience très, très, très extraordinaire. Bon, mais difficile, très, très difficile.
Dobra, proszę,
doktorze! Panie doktorze! Panie doktorze! Ja mam krat, amerykański paszport! Krat! I chyba też mamy najważniejsze...
C'est quelqu'un qui se dévoue complètement à une cause collective, qui donne sa vie pour donner l'essence à la vie des autres. Et c'est l'essence qui compte le plus. C'est pas la rationalité, parce qu'il aurait pu échapper à la mort et servir encore les enfants ou les autres personnes. Et il aurait pu s'échapper du ghetto, mais il préfère donner sa vie pour donner l'essence à la vie des autres et la sienne, du coup. Et dans ce sens, c'est un héros romantique dans le sens le plus noble du terme, d'où vient cet épilogue qui était tant critiqué, que personnellement j'aime pas esthétiquement, mais idéologiquement je trouve qu'il est très très juste, c'est-à-dire, quelque part, c'est héros romantique, parce que l'héros romantique dans les dernières phases devient homme-dieu, homme incarnant Dieu sur terre. Et c'est ça, Korczak, qui était d'ailleurs agnostique, mais qui réalisait les valeurs religieuses, c'est clair, l'amour des autres, donner sa vie aux autres, il n'y a pas de plus grand idéal religieux.
Mais un juif ne va pas au paradis.
Mais ça, c'est en dehors des questions religieuses, puisque d'abord, Korczak n'était pas croyant, ni catholique, ni chrétien, ni juif, ni judaïsant. Il était un athée, mais un athée, un humaniste, si vous voulez, qui réalisait les valeurs religieuses, indépendamment des religions. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure de l'œcuménisme, c'est complètement compréhensible par tout le monde, qu'on peut être un grand saint sans appartenir formellement à telle religion ou à telle autre. Culturellement, c'est un Polonais, c'est un écrivain polonais, il écrivait en polonais, il s'est référé à des questions de littérature polonaise, en apportant en même temps un très grand chercheur, intellectuel, pédagogue, comme vous savez, toute une méthode Korczak, qui a servi d'ailleurs en France aussi pour l'élaboration des écoles nouvelles. Mais dans les films de Vaïda, c'est surtout quelqu'un qui a su donner sa vie pour accompagner, pour ne pas laisser seul mourir les autres, les enfants.
Je pense que dans ce film, beaucoup de choses sont à
l'écran.
Peut-être il aurait fallu montrer la scène où les enfants sont enfermés dans des chambres à gaz. Moi, je n'aurais pas voulu faire une telle scène. Je n'estimais pas qu'elle était indispensable. On sait parfaitement, il n'y a aucun doute, les enfants ne sont plus là, ils ont été tués.
Agnieszka Hollande.
Je pense que le malentendu vient du fait qu'on attend de lui de faire le film sur les relations des juifs et polonais du point de vue d'un juif. Et il le fait du point de vue d'un polonais. Ça veut dire, et je pense qu'il a son droit à lui de le faire de son point de vue. Hein. Et ce sera toujours différent que du point de vue des juifs. Ce qui est exactement intéressant, c'est que vous avez un polonais de cette génération-là. Il a vécu la guerre comme un jeune garçon. Il était un peu impliqué dans la résistance. Il était le témoin de choses atroces. Ça marquait pour toujours, je pense, son sous-conscient. Et il a un besoin qui doit être très, très profond de traiter ce sujet. Mais il n'a pas des autres outils que ses propres outils à le faire. Ça veut dire sa propre sensibilité. Aussi, la partie de la culpabilité que les Polonais partagent. Et je pense que, par exemple, cette culpabilité, c'est un grand fardeau pour lui. Il essaye de travailler ça dans la façon honnête, mais en même temps, moi, je pense personnellement qu'il était incapable d'aller jusqu'au bout. Et c'est à cause de ça que ça revient, parce qu'il doit sentir qu'il n'a pas travaillé ce sujet jusqu'au bout. Et il revient et il est encore une fois incapable de travailler jusqu'au bout. Moi, je pense que de lui rapprocher antisémitisme, en tout cas, c'est complètement idiot. Hein. C'est complètement idiot. Mais par contre, on peut comprendre qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, ou qu'il ne sait pas comprendre, ou qu'il ne sait pas d'évacuer. Et je pense que ce n'est pas seulement lui, c'est toute la génération qui a passé par cette expérience, et que cette expérience le dépasse. Et il essaye de la traiter, de l'analyser, mais ils sont incapables. Et d'ailleurs, je ne le plains pas, parce que c'est une expérience qui est hors de toutes les normes de l'humanité qu'on accepte. Quand j'ai écrit Korczak pour lui, je l'ai poussé dans un temps dans certaines directions qu'il était incapable de prendre. Et par exemple, la plus des réactions négatives ont concerné surtout la dernière scène, que quelqu'un a dit que c'est presque négationniste, parce que qu'on montre que, bon, que Korczak n'était pas mort ou quelque chose comme ça. Ça veut dire, soi-disant, que les chambres de gaz n'existaient pas. Et bien sûr, c'est complètement simpliste, parce que c'est une image symbolique qui a dû exprimer certaines pensées qui n'avaient rien à voir avec l'existence de champs de gaz ou non-existence de champs de gaz. Et c'est, quand j'ai écrit ça, je l'ai écrit pour les raisons très précises. Korczak est devenu, immédiatement après sa mort, aussi bien pour les habitants de ghetto et après pratiquement pour toute la Pologne, une espèce de légende. Ça veut dire que les gens ont refusé de croire qu'il sera vraiment mort. Et ils se sont racontés des histoires disant que quelqu'un l'a vu là et quelqu'un l'a vu là, etc., etc. Et en même temps, lui, dans ses écrits, il y avait des espèces de légendes qu'il a racontées aux enfants, disant que quand on sera très, très mal, on va partir vers le soleil. Vous savez, cette espèce de images symboliques. Et j'ai mis des scènes, avant cette dernière scène, qui ont expliqué ça exactement. Cette fabrication des légendes, cette possibilité de vraiment croire à la mort des gens tellement innocents et tellement formidables, et que le petit peuple a immédiatement fabriqué ces légendes pour exactement évacuer leur air d'impossible. Et en même temps, on peut dire que c'est aussi vrai, parce qu'il est, il est resté dans nos vies et dans notre conscience comme quelqu'un qui est vivant. Ça veut dire son destin et le destin de ses enfants était plus fort que la mort.
Przecież ty nie byłeś ze zresztą ani o mnie, ani o orkiestrę. To mogłoby cię najwyżej zirytować. To byłeś zazdrosną muzyką. Bo to, że ci, którzy potrafią ją kochać, mogą być wolni. A ty nie potrafisz. Dla ciebie muzyka nigdy nie była celem. Była środkiem do nie wiem czego. Pozycji, władzy, stanowiska, sławy. Żeby, jak mówiłeś, wystawić głowę nad...
1979, le chef d'orchestre. Marta est violoniste. Elle explique à son mari, jeune chef d'orchestre, combien il s'est menti à lui-même en croyant aimer la musique. En fait, il n'est qu'un carriériste dépourvu d'âme, sans le cœur et l'esprit du vieux chef d'orchestre humaniste qui vient de mourir.
Nous venons de voir la fin du chef d'orchestre qui est sorti en 79 avec Krystyna Janda, qui donne une leçon de psychologie humaine à son mari qu'elle va quitter bientôt. Comment avez-vous réalisé cette scène? Krystyna Janda est criante de vérité, de naturel.
To prawda, Serge John Gielgud.
Tout à fait vrai, Serge John Gielgud était émerveillé de jouer avec elle pour la première fois. Il m'a demandé comment vous avez trouvé ces acteurs qui jouent si bien. Et elle a commencé très tôt. L'homme de marbre était son premier rôle. Et depuis ce temps-là, elle avait joué dans plusieurs films. C'est une fille qui a une technique d'acteur fantastique. Lorsque je regarde cette scène aujourd'hui, ce qui me surprend le plus, c'est que j'ai eu le courage de faire à la fin d'un film. Vous savez, c'est inhabituel. C'est même illogique de le faire à la fin. De sortir toute l'idéologie pourquoi on a fait ce film. Seulement, Krystyna l'a fait de manière tellement émouvante, tellement personnelle, que cela sauve son discours. Je me souviens que j'avais du mal à trouver la fin pour le film. Il y avait plusieurs fins. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait donner une note personnelle. Et la conclusion est la suivante. C'est un film sur moi. Si tu ne sais pas te défendre, choisis un autre métier.
Ale jeżeli chcesz być sobą,
mais si tu veux être toi-même, à ce moment-là, tu ne peux pas permettre que des considérations qui viennent en dehors de l'art, en dehors de principes que nous reconnaissons, que des intérêts particuliers entrent en jeu. Tout cela doit être mis à part. Et je dois vous dire que c'est un texte, encore une fois, écrit par Agnieszka
Holland.
Si je me souviens bien, elle a juste rajouté cette scène au scénario. En tout cas, c'est elle l'auteur du texte. Quand nous l'avons lu, cela nous a semblé très difficile, difficile à exprimer. Je pense que par la situation de leur couple, en fait, tout se ramène à eux deux à ce moment-là. Et tout se ramène à la question, est-ce que tu aimes la musique? Donc, transposé, est-ce que j'aime le cinéma? Si oui, on peut y aller. Sinon, alors tout cela n'a pas de sens, il faut chercher un autre métier. Et la dernière phrase porte une menace. Elle lui dit, trouve-toi un autre métier où ta haine pourra mieux te servir. Cette haine, c'est justement tous les services spéciaux, ce sont des gens qui faisaient partie des milieux artistiques mis qui, à ce moment-là, essayait avec beaucoup d'agression de défendre le système qui s'écroulait devant nos yeux. Sinon, une telle phrase n'avait pas sa place à l'écran. Mais en même temps, à l'époque, il y avait des journalistes, des écrivains qui défendaient le système dans et angle, nos collègues cinéastes aussi. Il y avait des gens ignobles aussi dans, à ce moment-là. Je pense, là, c'est un avertissement pour eux. Que si tu es plein de haine, ne crée pas de la musique. Mets-toi entièrement au service de ceux qui ont besoin de ta haine. Je crois que c'est un bon avertissement, j'en suis content.
Je pense à sa générosité. Ça veut dire qu'il est vraiment quelqu'un, un des hommes les plus généreux que je connaissais. Il est vraiment capable d'avoir la vraie joie pour le succès des autres. Et pour la réussite des autres, et aussi en, par exemple en voyant des œuvres d'art qui lui plaisent. C'est quand il voit un tableau ou un film ou une pièce qui lui plaît, il est tellement heureux qu'il y a très peu de gens qui font ce métier-là qui sont capables de cette espèce de l'ouverture et de la générosité. Et la même chose, je pense, pour le succès des autres, des gens qui aiment, c'est quelque chose qui est très beau en lui, qu'il est tellement ouvert. Et d'ailleurs, quand il vient à Paris, la première chose qu'il fait, il court au musée, au théâtre, il va voir des expositions, il va voir des films. Et la majorité des cinéastes que j'ai rencontrés sont tellement concentrés sur eux-mêmes, et tellement mégalomaniaques et gothiques, que quand je vois quelqu'un qui a cette ouverture, ça me rend optimiste. Je me suis dit, ça vaut la peine.
Jak ci na imię?
Ola.
Ola.
Je pense que les capacités sont très liées aussi au courage.
Et to tworzy szczęście, jakby taki szczęśliwy moment.
C'est là qu'on obtient un moment heureux. Où toutes les choses que vous faites se placent, trouvent leur place, se relient, le sujet, les acteurs, le lieu où l'on tourne, votre équipe. Je dirais que tout coopère harmonieusement.
Car
les personnes qui font un film avec moi croient que j'ai la main heureuse. Ils pensent que je sais ce que je fais. Donc ils savent aussi que ce qu'ils font, eux, n'est pas absurde, mais sont des petites parties qui s'ajoutent. Et ça, c'est très important. Et au moment où votre équipe perd confiance en vous, c'est très difficile de faire un film. Tout se dissout. Vous savez, c'est la même chose que dans l'armée lorsque les soldats ne croient plus à la victoire.
Et
avant même d'être attaqués, ils commencent à s'enfuir.
Ciné-club, Andrzej Wajda, avec Michel Masłowski, Agnieszka Holland, Wojtek Pszczoniak et Andrzej Wajda, traducteur Michel Lisowski. Documentation Radio France, émission artistique, Eva Combla.
Reims.
Équipe de réalisation, Michel Bertin, Frédéric Sordoyer, Jean Autramfou, Michel Kreis, Marie-Christine Closet, Dominique Prosac.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 juin 1998. Andrzej Wajda est mort en octobre 2016.